À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Claire.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Claire en stage en ce moment à la radio. Ils le disent, on est plus chaud que le climat. Ce vendredi, le 15, des jeunes appellent à une grève internationale pour défendre la planète. À Bourg, des lycéens s'organisent. Témoignage. Le lendemain, le 16, grande marche pour le climat dans toute la France. À Bourg, elle est organisée par le collectif burgien du mouvement citoyen-citoyenne pour le climat. Marion et Bernard du collectif sont avec nous en direct dans nos studios. Nouvelle immersion dans le savoir-faire local avec notre partenaire La Voix de l'Ain, direction Moulin Marion à Saint-Jean-sur-Velle. L'entreprise défend la bio depuis des années. Et quelques infos en bref à la fin de ce magazine avec toi Claire. Quand c'est fondu, c'est foutu. La terre, vous la voulez bleue ou bien cuite? Si le climat était une banque, vous l'auriez déjà sauvée. Ces slogans s'affichent sur les pancartes des marches organisées par des jeunes pour le climat. Des milliers de jeunes à travers le monde rejoignent le mouvement pour le climat en Belgique, en Suède, en France et à Bourg-en-Bresse. Ces slogans ont marqué Zofia et Marilou du lycée Quinet et Hippolyte du lycée Caria. Ces jeunes cherchent à mobiliser un maximum de personnes. Ils vont répondre à la grève mondiale pour le climat ce vendredi le 15. Les élèves sont appelés à ne pas aller en cours et à participer à une marche. À Bourg, rendez-vous à partir de 10h au parc de la Madeleine. Quelle raison, personne ou événement les a convaincus de se mobiliser pour le climat? Pour Zofia, ça a commencé avec la démission de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, et la découverte de Greta Thunberg.
Cette jeune Suédoise qui a notre âge et qui s'est mobilisée pour le climat, c'est-à-dire que chaque vendredi, elle fait la grève. Et c'est grâce à elle que nous avons osé à faire la même chose à Bourg-en-Bresse.
Moi, j'ai été motivée pour les mêmes raisons. À partir de l'apparition de Greta Thunberg, j'ai commencé à me sensibiliser, à chercher s'il y avait un mouvement qui avait été créé. Le compte sur Instagram @grèveclimat m'a donné toutes les informations sur la grève.
En sachant qu'il y a des choses qui peuvent se passer à Bourg, même dans cette petite ville, ça m'a motivé et je me suis dit qu'on pourrait faire changer les choses et changer les mentalités en créant un mouvement comme celui-là.
Quelle place avait pour vous l'écologie avant votre rencontre, votre connaissance de Greta Thunberg?
Moi, c'est dans mon éducation, c'est-à-dire que j'ai toujours été éduquée à être... faire attention aux déchets, à l'eau, etc. Et donc c'est ma mère depuis toute petite qui m'enseigne comment faire attention à l'environnement.
Moi, il y a bien sûr une part de l'éducation aussi, mais c'est de voir en ce moment, vu qu'on est dans une génération où il se passe beaucoup de choses, et avec les médias, les réseaux sociaux, on sent qu'il se passe des choses, et de tomber sur des vidéos, etc., qui parlaient de l'écologie et de ce qu'il fallait faire, ça m'a motivé, et voilà.
Justement, Greta Thunberg, cette jeune militante suédoise à l'origine de la mobilisation contre l'inaction de l'État, a dit « Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout, mais vous détruisez leur futur devant leurs yeux. » Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ?
Moi, je trouve cette phrase très juste. Et c'est vrai qu'en regardant ses discours, Greta Thunberg dit des choses extrêmement vraies. C'est une phrase... qui nous fait poser question sur, effectivement, si nous allons avoir des enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir.
Est-ce que c'est une question que vous vous posiez avant?
L'écologie, c'était pas forcément un sujet qui était très présent et même mis en valeur il y a quelques dizaines d'années. Et c'est seulement depuis une vingtaine d'années que ça commence vraiment à entrer dans les débats, dans les sujets de conversation. Et c'est vrai que... on est face à une sixième extinction de masse de la biodiversité. Les insectes disparaissent, les abeilles surtout. Et donc on peut se demander, mais sans abeilles, qu'est-ce qu'on fera? Et d'où ça vient? C'est vrai, elles nous ont laissé un gros désordre. C'est à nous de le remettre en ordre. Donc oui, c'est une tâche qui est laissée à nous, les enfants. On pourrait dire ça comme ça. Mais on est aussi conscient que nous pouvons participer à cette destruction de notre environnement si nous ne faisons pas attention à notre consommation, à nos actes en tant que citoyens.
Je n'ai pas confiance dans le système politique. Voici le témoignage d'Anouna de Wever, lycéenne à l'origine de la mobilisation belge. Le problème du climat serait donc exclusivement dû à l'inaction des États ?
C'est à partir de la révolution industrielle qui s'est déroulée il y a 2 siècles, et bien que tout a commencé, tout un engendrement. Et donc on s'est habitué à un progrès technologique, à un progrès dans la médecine, aux matières premières qu'on extrayait.
Moi je pense que si les politiques ne veulent pas faire quelque chose pour la transition écologique, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir, surtout en tant que jeunes, car nous n'avons pas le droit de vote. Donc effectivement, les politiques ont un gros rôle à jouer dans l'écologie et son avenir. Il y a la COP21, il y a eu des sommets, donc les politiques ne font pas rien, mais je pense que c'est en s'alliant qu'on pourrait vraiment faire évoluer les choses.
C'est pas assez.
Je pense que les politiques pourraient faire plus que ce qu'ils ne font déjà.
Moi, mon avis, c'est qu'il y a eu beaucoup de beaux discours et peu d'actions. Donc malgré les COP21, les COP24 et toutes les autres, je pense que les mesures qui n'ont pas été forcément prises par tous les pays, dont la France...
C'est juste des petits pas et ça suffit pas vraiment. Et c'est pour ça qu'on veut créer ce genre de mouvement, pour essayer de mettre une pression supplémentaire et de faire comprendre qu'il faut prendre des décisions clair et de vraiment changer les choses.
Pour se faire entendre, des milliers de jeunes aux quatre coins du monde ne sont pas allés en cours plusieurs fois depuis le début de l'année. Selon vous, est-ce la solution pour faire bouger les choses ?
Comme dit Greta Thunberg, à quoi ça sert d'étudier s'il n'y a pas de futur ? Personnellement, je ne serais pas prête à louper tous les vendredis, mais je pense que ça peut être une solution.
Donc du coup, vous, le vendredi 15, vous ne serez pas en cours ?
Non, effectivement, le principe, c'est que c'est une grève, c'est de... Effectivement, le fait que des étudiants... renie à travailler pour cette cause, ça peut avoir un bon impact médiatique et peut-être faire réfléchir un petit peu nos dirigeants.
Mais les autres vendredis, nous avons confectionné des t-shirts avec marqué « Vendredi pour le climat » pour quand même soutenir l'action malgré que nous sommes en cours.
Deux marches pour le climat ont été organisées par des jeunes en France, à Strasbourg et à Paris. Des Belges, des Allemands ou encore des Suisses y ont participé. Est-ce que vous y étiez ? Si oui, racontez-nous.
Eh bien, j'ai participé à la marche en octobre. Il y a eu une marche à Lyon, entre autres. Et ça, pour le coup, ça a très bien marché. On était 10 000 à Lyon. Le chiffre en France était assez énorme aussi. Et ça a pu quand même avoir un impact. Et c'était un grand événement pour l'écologie.
Qu'est-ce que vous ressentez face à toute cette mobilisation pour le climat ?
C'est très stimulant, c'est vrai que là on se rend compte, en fait ça préoccupe beaucoup de personnes, plus de personnes que ce qu'on pensait. Et donc on rencontre des personnes, on en parle, on peut même débattre dessus. Et c'est sûr que ça fait plaisir parce qu'on découvre des alternatives qui nous permettent d'avoir moins d'impact sur l'environnement. On apprend aussi beaucoup de choses. C'est sûr qu'on n'est pas des scientifiques, on ne peut pas être calé sur les dérèglements climatiques, mais on a vu qu'il y avait un problème. On voit que la biodiversité, elle diminue, que les épisodes de canicule pendant l'été, c'est devenu une habitude alors que c'est anormal. La température de l'eau augmente, les rivières sont plus basses. Il y a aussi certains problèmes parce que la demande en eau elle-même augmente pour l'agriculture lors de ces périodes, pour nous-mêmes. Et c'est vrai que lorsqu'il fait si chaud, eh bien on peut se demander, mais c'est encore pire que l'année dernière. Alors comment sera l'année prochaine et dans 10 ans ?
Et vous, en dehors de ces mobilisations, comment agissez-vous au quotidien pour le climat ?
Alors tout d'abord, j'essaye de m'informer, de comprendre la situation. J'ai décidé de ne plus manger de viande. J'ai réduit mes déchets et j'utilise énormément les transports en commun.
Oui, c'est des tout petits gestes, on nous en parle depuis longtemps et en fait, il faut y penser. Ça peut être se déplacer beaucoup en vélo, en transport en commun, ça peut être effectivement faire attention à ses modes de consommation, réduire, voire supprimer, mais surtout réduire la consommation de viande. Effectivement, plein de petits gestes, faire attention... Je sais pas, ne pas laisser trop de lumière allumée, que des choses comme ça.
Qu'est-ce que les autres élèves pensent de votre mobilisation ?
Il y en a des totalement contre ou qui ne comprennent pas, mais je dirais que c'est une minorité et que la plupart n'étaient juste pas au courant. Et donc nous leur permettons d'avoir des informations et de les sensibiliser. Par exemple, hier avec Zofia, nous avons fait le tour de l'internat pour sensibiliser à la grève.
On se rend compte assez vite qu'il y a plus de personnes que ce qu'on pense qui sont motivées. Et on arrive à motiver des gens, même si c'est juste pour suivre les cours et suivre un mouvement un peu de rébellion. Mais même le climat, c'est un sujet qui touche les gens en ce moment.
On est la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. C'est aujourd'hui, pas demain. Les générations précédentes ont déjà remis cet enjeu écologique et climatique au lendemain. C'est pas à notre tour de refaire la même chose. Je pense que on peut nous dire que c'est un coup de pied dans le vide, que dans tous les cas c'est trop tard, mais même si c'est pour limiter ce réchauffement à 2,5 degrés, bah c'est déjà ça, qu'on n'aille pas jusqu'à 4 ou 5 degrés, là ce serait dévastateur pour l'humanité et pour la biodiversité.
Et les profs, ils en pensent quoi ?
Les profs à qui nous avons parlé, oui, nous ont apporté leur soutien et nous ont encouragés à sensibiliser les autres élèves. Ils trouvaient que c'était une très bonne initiative et que justement à Bourg-en-Bresse, ça devait aussi avoir lieu, parce que le fait que ce soit dans une petite ville, ça montre que ça touche aussi toute la France. Voilà, nous sommes bien conscients des dérèglements climatiques ici même à Bourg-en-Bresse.
Vous sensibilisez d'autres jeunes et les adultes ?
Dans mon cas, c'est plutôt eux qui m'ont sensibilisée, comme dans ma famille. C'est vrai que parfois on peut être face à des adultes qui pensent que nous leur faisons la morale, mais en fait non, on aimerait qu'ils soient avec nous. D'ailleurs, on sera tous ensemble à la marche du 16 mars pour le climat à Bourg-en-Bresse.
Zofia, Marie-Lou et Hippolyte, lycéens burgiens, ils vont répondre à l'appel des jeunes à la grève pour le climat ce vendredi 15 mars. Zofia vient de le préciser, ils seront aussi le lendemain, le samedi 16, à la grande marche pour le climat. À Bourg, elle est organisée par le collectif burgien du mouvement Citoyen-Citoyenne pour le climat. Marion et Bernard, vous faites partie de ce collectif. Bonjour.
Bonjour Audrey.
Vos réactions au témoignage de ces jeunes ?
Eh ben c'est magnifique. Des jeunes qui se mobilisent comme ça pour le climat, eh ben c'est rêvé. Il faut que ça se fasse parce qu'effectivement, comme disait Sophia, c'est la dernière génération à pouvoir faire quelque chose.
C'est inspirant. Nous avons plus que 2 ans pour agir, 2 ans, rendez-vous compte, pour sauver l'humanité et le vivant qui nous entoure.
Ces lycéens sont mobilisés pour le climat et vous, à leur âge, vous en étiez où par rapport à cette question ?
Bonne question. En fait, à leur âge, on n'avait peut-être pas encore la conscience de cet environnement qui change, de ce climat qui change, de ce dérèglement climatique. Donc, chapeau les jeunes, allez-y, foncez.
Alors pour ma part, c'est la même chose en fait. J'ai pas forcément une conscience très éclairée depuis longue date. J'avoue que notre cerveau s'habitue aussi à ça et fait qu'on a du mal à prendre conscience, à écouter l'alarme climatique actuelle. C'est le propre du cerveau. On se protège. Et alors, il faut réagir.
Vous le disiez, pardon ?
Il faut réagir.
Quel a été le déclic pour vous, Bernard ?
Le déclic, eh ben, personnellement, je suis apiculteur, amateur bien sûr, et donc je vois au fur et à mesure des années qui passent les problèmes énormes qu'on rencontre quand on fait de l'apiculture, les abeilles qui disparaissent, qui meurent, on ne sait pas pourquoi, enfin on sait très bien pourquoi en fait, pesticides, environnement qui est complètement à l'envers, donc voilà, ça c'est une conscience qui vient petit à petit quand on fait de l'apiculture, par exemple.
Alors moi, pour ma part, j'étais triste d'entendre, comme Zofia le disait tout à l'heure, que les abeilles peuvent disparaître et voilà, risquer de perdre la pollinisation générale. Et en colère, de ne pas savoir comment m'organiser pour réagir. Donc c'est vrai que j'ai eu besoin de retrouver du sens à tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le collectif des citoyens pour le climat. Et là, j'ai trouvé une vivacité d'esprit des jeunes, plus jeunes que moi. Moi, j'ai que 35 ans, mais il y a encore beaucoup plus jeunes, comme les jeunes lycéens qui s'organisent. Et c'est intergénérationnel. Nous sommes d'une diversité culturelle, socioculturelle, socio-économique grande. Et c'est ça qui est riche, c'est-à-dire qu'on est ensemble et on est prêt à des changements majeurs.
Mais qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous intéresser à cette question ? Comment c'est venu dans votre vie ?
Il le fallait, en fait. C'était une prise de conscience, quelque part.
Mais elle s'est fait comment, cette prise de conscience ?
L'appel des scientifiques, déjà alarmant. Perdre les oiseaux, perdre la biodiversité, risquer de moins bien respirer, de ne pas pouvoir faire des enfants sans savoir qu'ils vont vivre une vie saine. Voilà, c'est comment je peux pas réagir autrement.
Ça, c'est quand même des choses qu'on peut entendre depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous avez décidé de vous mobiliser ?
Parce que je suis responsable.
Tout simplement parce que ça devient tangible. On voit les sécheresses énormes, les températures assez fortes l'été, qui durent pendant 1 mois, 2 mois, mais continuellement. Et puis l'hiver, il n'y a plus d'hiver. Là, c'est vraiment tangible.
On s'alarme parce qu'on vit directement ce dérèglement climatique, et quand ça se passe ailleurs, dans d'autres pays, vu que ça nous touche moins, on est moins concerné. C'est ça qui se joue ?
On est moins concerné. Non, on a quand même beaucoup d'actualités. On voit les tornades qui se font, les tsunamis, les dérèglements vraiment importants sur toute la planète. Et là, on l'a vraiment dans les informations, et c'est vraiment bien relié. C'est concret. Mais par contre, il n'y a pas d'effet. On voit les causes, on voit les faits, mais il n'y a pas de... On ne sait pas... Il n'y a pas de
de matérialisation concrète. Voilà. On l'observe, on le sait. Il y a de plus en plus de reportages de personnes qui partent aussi. On voit les mers de plastique abonder sur nos côtes. Enfin, non, c'est très inquiétant. Et nos politiques aussi, on a envie de coopérer pour proposer des solutions à nos politiques, d'être partie prenante du changement qui doit s'engager, tout simplement, en tant que citoyen, en tant qu'humain.
Les jeunes l'ont dit, ils ne font pas confiance aux politiques ou aux États pour faire bouger les choses pour le climat. Vous êtes du même avis ?
En fait, il faut que les citoyens se mobilisent pour faire bouger les choses et pour faire bouger les politiques. Les politiques, pas que les politiques, hein, y a les industriels aussi et il y a les banquiers. Hein. Vraiment, il faut mettre tout le monde, il faut vraiment faire bouger les choses chez tout le monde. Et ça, c'est important. Et c'est les citoyens qui vont faire bouger les choses. C'est pas les politiques. Si les politiques n'ont pas l'opinion citoyenne derrière eux, ça ne bougera pas, c'est sûr.
Ce sont nos représentants, c'est nous qui portons notre voix pour les faire élire et nous représenter au niveau européen, au niveau international. Je crois qu'il faut être ensemble et pas qu'il y ait de rupture de confiance, au contraire, mais que nous puissions porter notre pierre à l'édifice, nous, en tant que citoyens.
Aujourd'hui, donc, on parle des citoyens, ils manifestent, les gilets jaunes, les gilets roses, le week-end dernier. Ça sert encore à quelque chose de manifester ?
Bien sûr, ça sert à quelque chose de manifester. Il faut manifester. Parce que si on ne se montre pas, on voit bien que les élections ne sont pas vraiment portées. Donc, il faut relancer la manière de faire. Et peut-être que ça passe par les manifestations.
Et pour nous, c'est aussi raconter une histoire, se rassembler ensemble, être ensemble, partager, sensibiliser ceux qui ne le sont pas encore ou pas beaucoup, et partager ensemble, trouver des idées ensemble et une énergie commune. Donc manifester, oui.
Vous parlez de mobiliser les personnes qui ne le sont pas encore. Est-ce que là, vous rencontrez justement des personnes qui n'étaient pas convaincues, ou il y a quelque chose qui s'est passé et que vous côtoyez des personnes qui viennent juste de se mobiliser ?
Oui, c'est évident. En ce moment, vraiment, le mouvement prend de l'ampleur et des gens qui n'étaient vraiment pas au fait de ces problèmes-là prennent conscience. C'est vraiment l'éveil des consciences et on sent que ces gens-là viennent manifester avec nous.
Je pense que tout un chacun est sensible à ces questions-là. Après, il est très dur de porter ce discours-là sans être un acariâtre qui ramène sur le sujet les histoires noires, les collapsologues qui font craindre la fin du monde, n'empêche que on est tous concernés, donc dans la mesure où on est tous concernés, tout le monde cherche une solution, donc se rassembler c'est déjà une première solution.
Et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui ne se sentent pas encore concernées ?
Que chacun peut faire sa part au quotidien, rien que des petits gestes ne suffiront jamais si les gens ne prennent pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir au niveau des décisions financières, comme tu le disais Bernard, mais chacun peut prendre sa part, tout simplement.
Comment convaincre ceux qui pensent plus à comment ils vont finir la fin du mois qu'à ces questions de protection de la planète, par exemple ?
Alors, le slogan « la fin du mois, la fin du monde », c'est le même combat, mais c'est vrai. C'est vraiment ça. Hein. Il faut vraiment changer un petit peu cette société qui est basée sur la surconsommation et puis la finance. Donc là, il y a quelque chose à jouer.
Et opposer les luttes n'est pas du tout, ne peut être que stérile. En l'occurrence, on ne peut pas laisser les plus démunis de côté. Nous sommes dans la même bateau, quoi. On ne peut pas construire un bateau si on ne fait pas.
C'est pas que des écolos qui bougent. Hein, c'est
exactement.
Sûr.
Vous avez rejoint le collectif burgien du mouvement citoyen-citoyenne pour le climat. En quelques mots, concrètement, c'est quoi ce mouvement ?
Un mouvement, c'est vraiment c'est un mouvement citoyen, donc c'est un groupe de citoyens qui ont fait quelques marches à Lyon et puis qui se sont dit en revenant, eh bien effectivement, pourquoi pas une marche sur Bourg, donc sur Bourg, ça s'est construit un petit peu comme ça. Et puis après, ça, les idées ont fusé et puis on a lancé cette grande marche pour le climat.
Et en fait, c'est un élan de citoyens, en fait, de citoyens qui se veulent pacifiques, responsables, non partisans, qui sont déterminés à faire converger leurs forces, leurs idées, leurs compétences au service de la, du climat et de la biodiversité.
C'est au-delà de toutes les idéologies, vraiment.
Tout à fait.
Et ça rassemble combien de personnes aujourd'hui? En moyenne?
Alors, c'est un petit peu compliqué à définir. Bon, le groupe de personnes qui s'occupent un petit peu des, de la coordination, de l'organisation, c'est une vingtaine de personnes. Mais vous voyez sur la page Facebook, il y a 900 personnes qui suivent. C'est vraiment, ça grossit de plus en plus.
Et tout un chacun peut venir, voilà, encore une fois, mettre sa pierre à l'édifice. Donc, chacun est le bienvenu, petit, grand, retraité.
De tous les âges, voilà. De toutes les
couleurs, de voilà. du monde entier, voilà.
Selon vous, ça serait quoi les solutions pour que ça change en quelques points?
Arrêter les pesticides.
Ça, c'est important. D'ailleurs, il y a un mouvement qui sont les coquelicots. Tous les premiers vendredis de chaque mois, on peut se rassembler devant l'esplanade de la Comédie.
Et on reparlera aussi, puisque la 14e semaine pour les alternatives aux pesticides commence la semaine prochaine.
C'est ça.
Donc vous avez dit donc interdire les pesticides, autre chose?
Tous les noms en cils, fongicides, herbicides, etc. dans nos jardins.
D'autres mesures pour le climat, Bernard?
Eh bien oui, les énergies fossiles, hein, on sait que c'est à terme, ça va s'arrêter. Et puis c'est pas une bonne chose pour la planète, hein, on le sait. Donc il faudrait vraiment mettre les moyens pour trouver des énergies renouvelables. C'est important.
Moi je dirais aussi mettre fin au lobbyisme et aux intérêts financiers croisés s'ils ne sont que la seule fin des projets qui émergent.
Le samedi 16 mars, vous marcherez pour le climat. Quels seront vos principaux messages? Vos réponses, c'est dans quelques minutes.
Radio B.
Les différences majeures, si on compare par exemple le moulin qui a été arrêté en 2009, qui était sur l'eau, qui était le moulin originel déjà, c'était énormément d'outils en bois. Donc le bois aujourd'hui, c'est pas cohérent avec les normes alimentaires qu'on a. Donc il a fallu vraiment écarter toute cette partie-là. On est sur des transports, des céréales et des produits finis qui sont en pneumatique. Ça évite derrière de la rétention de produits, notamment dans les vis et dans toutes les zones où il peut y avoir de la stagnation. Et donc derrière, des mélanges de produits ou des développements d'insectes. On utilise des anciennes technologies et de la nouvelle technologie. On prend le meilleur des deux.
Restez à l'écoute du 90FM. Nous irons à la découverte de l'entreprise Moulin Marion à la fin de ce magazine. On se retrouve dans quelques minutes.
Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nous rêve aussi. L'amour dans les champs, je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent me rêve, le vent se lève aussi. Avez-vous mesuré ce jeu, bon jeu sans avoir l'air? rien.
Émilie Loiseau sur Radio B avec « Viens avec moi, mon vieux pays », une chanson dédiée au mouvement « Nous voulons des coquelicots ». C'est un appel pour interdire tous les pesticides. Les produits chimiques, c'est pas automatique.
La 14e semaine pour les alternatives aux pesticides commence la semaine prochaine. La biodiversité est à l'honneur. Il existe des alternatives aux pesticides. Pour en parler, la FRAPNA de Lain organise une table ronde. C'est le jeudi 28 mars à Foissia. Les invités, la Chambre d'agriculture de Lain, le syndicat du bassin versant de la Rissouze et des agriculteurs du territoire. Au programme, échanges et buffets, renseignements auprès de la FRAPNA.
Radio B.
Ce samedi, le 16, grande marche pour le climat dans toute la France. À Bourg, elle est organisée par le collectif burgien du mouvement Citoyens, Citoyennes pour le climat. Marion et Bernard du collectif sont avec nous en direct dans nos studios. Donc, le samedi 16, vous marcherez pour le climat. Quels seront vos principaux messages?
Alors, Bernard, les principaux messages, en fait, il faut rester en dessous des 1,5 degrés d'augmentation. Il faut faire pression sur les politiques, sur les multinationales, sur les banquiers pour engager les changements nécessaires. Il faut engager la société tout entière dans une transition écologique rapide et équitable.
Marion, quelque chose à
ajouter ? Il est encore temps d'agir, il n'est pas trop tard. Donc rejoignez-nous le samedi 16 mars au parc Jean Monnet, un parc assez sympa, vallonné, qui est au cœur de la Ressouze, si vous ne connaissez pas. Il y a un grand parking pour se garer, c'est pratique, c'est facile, parking du grand cimetière,
c'est ça.
Ça c'est facile.
Qu'est-ce qui est prévu justement ?
Donc départ à 10h, des troupes. Donc il y a plusieurs surprises sur le parcours, mais c'est une marche qui se veut festive, conviviale, familiale. Donc venez en poussette, avec les cannes, peut-être pas, parce que c'est vrai que c'est un parcours un peu long. On part du parc Jean Monnet et on est prévu arriver au place de la Comédie. Et on s'arrête, Bernard, sur plusieurs...
Alors il y aura un concert d'organisé, il y a Galou, entre autres, qui vient chanter. Il y a les Pourquoi Pas qui vont faire une déambulation un peu festive tout au long du parcours. Il va y avoir quelques arrêts à la Chambre d'agriculture.
Chambre d'agriculture, au marché couvert.
Au marché couvert.
Avec des surprises.
Avec plein de surprises. Vraiment, malgré l'urgence, faisons la fête pour le climat.
Des prises de parole, de la danse. Nous allons danser aussi, un collectif de danseurs qui vient danser pour le climat. Et d'autres choses. Curiosité.
Et après cette marche, qu'est-ce qui va se passer ?
Laissons-nous peut-être le temps déjà de se rassembler, de marcher, de trouver cette énergie commune. Et ça continuera forcément. Nous sommes déjà un collectif organisé, informé, qui sommes prêts à nous positionner. Donc ça continuera, c'est sûr.
La Grande Marche, c'est ce samedi 16 mars dans le monde entier, en France et à Bourg-en-Bresse. Le rendez-vous est donné au parc Jean Monnet à 10h. Et pour avoir plus d'infos,
rejoignez-nous sur les pages Facebook de l'événement. Facebook, c'est Collectif pour le climat de Lain, ou envoyez un mail, on a une adresse mail si vous avez besoin d'informations ou d'affiches à afficher dans votre entourage, sur le site, sur l'adresse mail il est encore temps, bourg@gmail.com. Toutes les infos sur le site de Radio B, j'imagine, Audrey ?
Aussi, tout à fait.
Bon, super.
On mettra le lien.
Merci.
Marion, Bernard, merci.
Merci.
Vous êtes
merci.
Du collectif burgien du mouvement Citoyens, Citoyennes pour le climat. Pour soutenir la Grande Marche pour le climat de Bourg, des bénévoles de la FRAPNA de Lain, la Fédération des associations de protection de la nature, organise le vendredi 15 mars, donc ce vendredi, une sortie spéciale. Le principe, courir et ramasser des déchets en même temps. Départ du parc Jean Monnet à 18h. Attention, c'est sur inscription, il y a 30 places. La FRAPNA aussi sur Radio B. Chaque mois, les chroniques du Hérisson présentent l'émission et les activités de l'association et met aussi l'accent sur la biodiversité locale. La prochaine, c'est le mardi 19 mars à 7h30, 8h30 et 12h30. Réécoutez aussi les chroniques « Quel avenir pour notre planète ?» réalisées par des élèves du lycée Lalande. C'est dans les émissions rubrique Société.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Une fois par mois, en partenariat avec l'hebdomadaire La Voix de l'Ain, nous vous proposons une immersion dans le savoir-faire local. Aujourd'hui, on s'arrête à Saint-Jean-sur-Velle, dans l'entreprise familiale Moulin Marion. Marion, comme Célestin Marion, le maître meunier a donné son nom au moulin au début du XXe siècle. En 1984, son arrière-petit-fils Michel Pelletier et sa femme Maria l'ont racheté pour produire des farines bio et des aliments bio pour les animaux d'élevage. Suivez-moi dans les coulisses, Julien Boris Pelletier, leur fils, le directeur général, commence la visite. On le suit dans les moulins.
On va sortir des bureaux et on va rentrer donc sur le site Moulin sans gluten. Allez, en avant. Donc, ce bâtiment-là, il est tout récent. Il a moins d'un an. On l'a mis en route avec différents outils, donc de mouture, décorticage, polissage, donc vraiment des outils divers et variés pour travailler toutes les céréales secondaires. On va parler de sarrasin, on parle de pois chiches, on parle de millet, on parle de châtaigne, on parle de riz. Donc pour vraiment pour pouvoir les transformer, les travailler soit en graines brutes, pures, soit en farine, soit en décortiqué.
On a l'image du moulin à l'ancienne.
Oui.
Comment on peut faire le parallèle entre les deux, celui à l'ancienne et le moulin aujourd'hui?
Les différences majeures, si on compare par exemple le moulin qui a été arrêté en 2009, qui était sur l'eau, qui était le moulin originel. Déjà, c'était énormément d'outils en bois. Donc le bois aujourd'hui, c'est pas cohérent avec les normes alimentaires qu'on a. Donc il a fallu vraiment écarter toute cette partie-là. On est sur des transports, des céréales et des produits finis qui sont en pneumatique. Ça évite derrière de la rétention de produits, notamment dans les vis et dans toutes les zones où il peut y avoir de la stagnation. Et donc derrière, des mélanges de produits ou des développements d'insectes. On a des outils qui sont très modernes, mais on utilise aussi des anciens outils. C'est-à-dire qu'on a des meules de pierre qu'on voit là-bas, qui font 1,60 m de diamètre, qui sont des vieilles meules de pierre. Et tout autour, en fait, on a de la modernité avec un embrayage, des débrayages automatiques, avec des débits qui sont automatiques, etc. Donc, on utilise des anciennes technologies et de la nouvelle technologie. On prend le meilleur des deux.
Donc un peu les grosses étapes, on a les grains qui arrivent.
Alors l'arrivée, on a l'analyse des grains. Il faut qu'ils soient conformes à la réglementation, conformes au cahier des charges bio. Donc on a les certificats bio, on a les certificats de lavage des outils de transport. Donc énormément de contrôle en interne. Une fois que le grain est validé, on le passe dans le process de nettoyage d'abord. Ensuite, on le met en œuvre, donc suivant ce qu'on veut comme produit fini. On va le mettre en œuvre dans les différents outils, broyage, décortiquage, polissage. Ensuite, il passe soit à l'ensachage big bag, soit à l'ensachage sac, et ensuite, il part chez les clients. Là, on est en train de traverser donc l'outil sans gluten qui se trouve derrière les bureaux est séparé totalement des autres outils, donc alimentation animale et farine panifiable, pour éviter justement des contaminations en direct.
Qu'est-ce que ça représente pour vous de travailler dans cette filière ?
Je pense que c'est simplement la bonne manière de travailler les produits agricoles. Travailler en bio, ça devrait être normal en fait. L'autre bio ne devrait pas exister. On devrait faire des produits sains et naturels de base, quoi. Mais on est allé trop loin, effectivement, après-guerre, dans tout ce qui est, on va dire, l'industrie de l'agriculture. Hein. On a poussé à produire énormément sous prétexte de nourrir le monde. Et aujourd'hui, on est encore dans ce contexte-là, alors qu'on sait que le monde n'a pas besoin de la France pour se nourrir. Il faut avant tout déjà se concentrer sur ce qu'on sait faire, sur notre consommation interne, éviter donc de détruire les sols, de les polluer, pour pouvoir les léguer aux générations qui vont venir après nous, dans de meilleures conditions. On se dirige maintenant vers le moulin traditionnel, on va dire. Donc le moulin, on va travailler les blés biologiques, les épeautres, grand épeautre, petit épeautre, corazon, donc toutes les céréales qui sont avec du gluten.
Bonjour. Bonjour, madame.
Au moulin, on passe d'abord sur la partie nettoyage. Le grain, quand il arrive, en fait, il est réceptionné, il est analysé comme ce qu'on a vu en amont pour l'alimentation animale et pour le sans gluten. Une fois que le grain est analysé, que la qualité est validée, on le rentre dans la fosse et on le passe au nettoyage. Donc là, c'est du nettoyage pour enlever en fait toutes les impuretés qu'on peut avoir qui viennent du champ. On passe dans des épireurs, on passe dans des brosses pour vraiment avoir derrière un grain qui soit propre à la consommation. Ce grain, il est stocké. Et ensuite, pour le mettre en œuvre, on va d'abord l'humidifier, le laisser reposer avant de le travailler. Donc ces meules, c'est des meules de pierre traditionnelles, grand diamètre, qui tournent lentement pour ne pas échauffer la farine, et derrière qui permettent d'avoir une farine avec des qualités nutritionnelles qui sont importantes et qui sont très intéressantes derrière et qu'on retrouve dans le pain. Voilà, pour terminer, on arrive maintenant à la zone de stockage, en fait, avant expédition. Donc là, on stocke toutes les palettes qui ont été faites avec le robot palettiseur. Ces palettes sont prêtes pour l'envoi chez les clients. Et donc là, on va charger simplement les transporteurs ou nos camions pour qu'ils puissent diffuser tout ça.
Julien Boris Pelletier, directeur général de l'entreprise Moulin Marion. Plus de 20 000 tonnes de farine sortent des moulins chaque année. L'ancien moulin sur la rivière existe toujours, mais il est à l'arrêt. Découvrez son histoire dans notre pastille sonore ce vendredi 15 mars sur le site de notre partenaire lavoidelin.fr. Toujours ce vendredi, ne manquez pas dans l'édition papier l'article de Cyprien Dumas pour en savoir plus sur l'histoire du Moulin Marion et sa présidente Maria Pelletier, engagée pour la bio depuis des années.
Radio B.
Radio B.
Quelques infos en bref. Avis aux lycéens et aux étudiants en réorientation.
Il vous reste quelques jours pour déposer vos vœux sur Parcoursup, la plateforme pour s'inscrire après le bac. Vous trouverez aussi sur le site des conseils pour votre projet d'orientation et pour compléter votre dossier. La date limite, c'est ce jeudi, le 14 mars.
Distribution de sacs à pain en tissu. L'agglo du bassin de Bourg veut réduire les déchets dans les boulangeries.
Des sacs 100% récup fabriqués par des salariés de l'association Tremplin. 7 boulangers volontaires vont les distribuer gratuitement. Ils sont à Bourg, Saint-Denis-les-Bourgs et Saint-André-sur-Vieux-Jonc. Pour plus d'infos, contactez l'agglo du Grand Bassin de Bourg.
Vous donnez, nous avançons, collecte de fonds de l'APF France Handicap.
Plusieurs actions dans l'Ain. L'opération Un don, une rose dans les magasins d'alimentation et une matinée animée le samedi 16 mars. Rendez-vous place de la Comédie de 9h à 13h. À 10h30, Leslie Robin, chanteuse guitariste pop-rock folk, en concert. En partenariat avec le bar associatif Le Temps des Noyaux. Objectif de ces actions, récolter des dons pour le projet artistique extraordinaire Emma.
Journée internationale des forêts.
C'est du 20 au 24 mars pour partir à la rencontre de la forêt française. À Bourg-en-Bresse, ça se passe dans la forêt de Seillon. Des activités autour de l'arbre, du bois et de l'écologie, jeux de piste en forêt, sculpture sur bois, animation land art ou encore balade nocturne comptée ou en calèche. Les informations sont à retrouver sur le site de l'agglomération grandbourg.fr.
La beauté, c'est le thème de la 5e édition du Printemps des Poètes, un événement national entièrement dédié à la poésie. Le collectif Voix Mêlée organise la 5e édition à Bourg-en-Bresse et à Péronnat, c'est en ce moment et jusqu'au 16 mars. Pour ce festival de poésie, Radio B délocalise Vendest pour un voyage d'une heure autour de la beauté, en musique et avec des invités. C'est ce mercredi le 13, de 19h à 20h, en direct et en public, au Café de la Tannerie et sur le 90 FM ou via notre site radio-b.fr. Toujours sur notre site, réécoutez notre magazine spécial Printemps des Poètes, édition 2019. C'est dans l'info, à vous les Burgiens, le numéro du 4 mars. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Claire, qui est donc en stage à la radio ces deux dernières semaines. Merci à Elodie et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h. Et à tout moment sur notre site radio-b.fr.